Merci Sonia et à lundi pour d'autres pieds sur Terre. D'ici là, jusqu'à 15h, la Terre est rouge, volatile et cruelle.
Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cela concerne le temps. Je vais vous demander à présent d'assister à la démonstration de la possibilité de mouvement à travers le temps. Comment ferez-vous pour revenir ? C'est un risque que je suis prêt à courir. L'espace.
Amaury Charnoux.
Une page d'histoire arrachée au temps et mise en récit par un texte, des archives et une bande originale sur mesure. Trajectoire singulière, épopée collective, une heure pour rêvasser en musique. Voici Métronomique, chaque vendredi de 14h à 15h et sans limite sur franceculture.fr. Aujourd'hui, nous irons nous perdre dans un immense territoire couvert d'une terre rouge située au sud du continent africain face à l'océan Atlantique, l'Angola. Nous sommes dans les années 1960 et tandis que les puissances coloniales européennes envisagent enfin le démantèlement de leurs propres empires, le Portugal de Salazar, lui, regimbe et choisit de perpétuer son fantasme civilisateur. Aujourd'hui, parmi les chants sublimes et mélancoliques, nous plongerons dans le combat d'une génération de musiciens bien décidés à retrouver sa mémoire et son indépendance. Notre histoire croisera des exils, des charivaris, des cœurs écartelés et des têtes au bout de piques. Aujourd'hui, 1969-1975, Angola, l'indépendance est une chanson triste. Cette nuit de 1969, l'obscurité enveloppe les abords de la piste de l'aéroport international de Luanda. Sur la passerelle avancée au pied de la caravelle qui vient de s'immobiliser dans le vacarme des moteurs, descendent les passagers du dernier vol de la soirée. Parmi eux, un homme, visiblement fatigué, un sac en plastique à la main. Au moment de poser le pied sur le tarmac, il s'arrête et lève la tête vers l'aérogare, guettant au loin une présence amie. Il n'aperçoit rien d'autre que la course furtive d'un couple d'impala, ces gazelles à la robe fauve qui s'aventurent souvent sur les friches de l'aéroport. La journée de l'homme a été longue. La veille, il s'était réveillé à 4800 km de là, dans une prison du Cap-Vert, achevant sa 10e année d'exil. C'est alors que la porte de sa cellule s'était ouverte et que le gardien lui avait lancé « C'est fini, Liceo. Tu rentres chez toi maintenant. Ordre de Salazar en personne. » À peine le temps de rassembler ses émotions et d'empoigner sa guitare, qu'on l'avait fait grimper dans un bus, un ferry, puis un avion. Et à l'issue de ce long voyage, il était finalement de retour chez lui, dans l'indifférence générale et les cavalcades nocturnes des gazelles. Tandis que les autres passagers attendent l'arrivée de leurs bagages sous les néons blafards de l'aérogare, lui, qui n'avait rien en soute, négocie avec un taxi qui lui avance le prix de la course. L'autre, sans doute un immigré congolais, accepte avec méfiance et, tandis qu'il progresse en voiture vers le centre-ville, le chauffeur l'observe dans le rétroviseur. « Vous me faites penser à quelqu'un, mais je ne saurais dire qui. »« Laissez tomber, » répond notre homme après un moment. « Mettez plutôt la radio, vous voulez bien ?» L'autre s'exécute, mais ce qui s'en échappe alors étonne tellement notre voyageur qu'il s'enquiert du nom de la station. « Eh bien, c'est Voyage de Angola, » répond l'autre. « C'est nouveau ?» Nouveau, nouveau, pas vraiment, ça doit bien faire un an. Vous débarquez, mon vieux, lui lance le chauffeur, en éclatant alors d'un rire sonore. Curicutella par le groupe Duo Ouro Negro 1961, exprimant la joie de parvenir enfin à l'issue d'un long voyage. Et justement, cette nuit-là, Liceo Vieira Diaz arrive enfin à destination. La ville qu'il découvre depuis le taxi a bien changé par rapport à celle qu'il avait laissée 10 ans plus tôt. Luanda déroule sous ses yeux ses faubourgs, mais même de ses quartiers pauvres se dégage quelque chose de différent. Un peu partout, des immeubles, des ronds-points, des ponts qui, Liceo en jurerait, n'existaient pas en 1959 lorsqu'il avait été arrêté et embarqué de force dans un avion vers le Cap-Vert. Depuis 10 ans, de fait, l'Angola a changé. D'aucuns parleraient de boom économique, de miracles, de l'extraction diamantaire, du coton, du café, du bois, du fer et surtout du pétrole dont les revenus ont permis tous ces travaux publics et cette manière de croissance urbaine. Liceo, évidemment, sorti le matin même de sa prison et de son isolement, ne se formule pas les choses tout à fait en ces termes, mais il perçoit confusément, malgré l'heure avancée de la nuit, que oui, quelque chose a changé en Angola. Cette espèce d'effervescence qui traverse la ville, cette agitation des tours des rues et ces musiques qui s'échappent de l'autoradio du taxi, non plus seulement en langue portugaise, mais bien en angolais. Tout ça fait trop d'un coup. Ça lui monte à la tête, laquelle se met à tourner et Liceo, fermant les yeux, tente de ressusciter le passé.
Kiwanga mbe les bras de ta mère. Quando li lasci ci vedi, quando li lasci ci vedi, quando li lasci ci vedi, lasci di lasci caso cava. Quando li lasci ci vedi, quando li lasci ci vedi.
Mushima, une chanson écrite jadis par Liceo Vira Diaz quand il dirigeait ses fameux Engolas Ritmos. Mushima évoquant l'amour maternel, mais aussi le nom d'un sanctuaire angolais où une femme accusée de sorcellerie avait proposé à son accusatrice de se rendre afin que la vérité éclate. Mais vu qu'en 1969, lors de ce retour à Luanda, les Engolas Ritmos n'étaient plus qu'un lointain souvenir, remontons désormais en arrière. Nous sommes à la fin des années 1940. Liceo s'appelle encore Carlos Aniceto Vieira Diaz. Il appartient à la bonne société angolaise. C'est un jeune homme fin et cultivé qui s'intéresse à l'art et notamment à la musique, dont sa tante, qui est pianiste, lui a enseigné les rudiments du classique. Cette musique que la bonne société blanche de Luanda, mais pas que, aime pratiquer ou écouter. Sa tante, d'ailleurs, réveille aussi sa curiosité envers la musique brésilienne et les percussions africaines. Il devient employé de banque, mais dans le même temps, vu qu'il est aussi guitariste, il fonde un groupe dont il compose les premières chansons. Ce groupe s'appelle les Engola Ritmos, composé d'une guitare et de petites percussions. Tous composent des lamentos inspirés des chants traditionnels des femmes, narrant des funérailles ou des chroniques de mœurs. Ce sont d'ailleurs leurs propres mères qui jugent de la qualité de leurs morceaux, les faisant au besoin retravailler. Ensemble, ils jouent aussi des danses populaires et des sembas. Sembas, écrite avec un E et non comme la brésilienne avec un A, même si les deux sont liés et que la samba brésilienne découlerait probablement de son ancêtre angolaise. Le Brésil, dont nombre d'esclaves qui y avaient été envoyés avaient été capturés en Angola. Bref, la musique en Angola, de par toutes ses ramifications géographiques et historiques, ne pouvait être que politique. Ces années-là, elle devient le vecteur des aspirations indépendantistes. Cette musique, une classe moyenne noire s'en empare. On les appelle les assimilados, les assimilés. Fonctionnaires, employés, commerçants ou artisans, ces noirs ne vivent pas comme les autres miséreux dans les quartiers de sable, les mousekes, mais dans les quartiers frontaliers. Certains se font défriser les cheveux et portent des cols amidonnés, comme les blancs. Spoliés de leurs biens et de leurs prérogatives par le pouvoir colonial, ils ont toutefois reçu une éducation portugaise, mais sont empreints de culture brésilienne et sont passionnés par le concept de négritude. Ils seront les principaux artisans de la lutte indépendantiste. Ils fréquentent certains lieux, notamment la Liga Africana, où chaque semaine sont donnés des concerts, où viennent également se mêler quelques fonctionnaires de l'administration coloniale. Cette Liga Africana, où dès 1952 se produisent d'ailleurs les Engola Ritmos.
Yango we kupuri sekima. Yangi tu la mie.
Ori tori Yangi tu la mie.
We gana kialunda mushima kaluka kitanje.
We gane gozo kutungonzo.
Sewe jiriri okwende gozo kutungonzo.
Sewe jiriri okwende gozo kutungonzo.
Yango e kukuri sekima.
Yango e kukuri sekima. Yango e kukuri sekima. Se ukuri sapata je kumushima.
Yango e kukuri sekima.
Yango e kukuri sekima. Yango e
Ori tari jangi tu la mie.
Ori tari jangi tu la mie.
Wengana kialunda mushima kanuka kitanje.
Wengane gozo kutungonzo.
Sewe jiriri okwende gozo kutungonzo.
Sewe jiriri okwende gozo kutungonzo.
Django Wei parlait N'Gula Rikmos, évoquant les questionnements d'un homme d'une famille pauvre sur la manière dont sa femme se serait procurée de la nourriture. Les membres de ce groupe, N'Gula Rikmos, sont alors presque tous des militants nationalistes, à une époque donc où la musique revêt un caractère contestataire envers la colonisation portugaise, laquelle continue de faire peser sur le pays sa ségrégation raciale et sociale. La société est alors divisée et hiérarchisée en multiples couches. Il y a les noirs, les assimilés, les mulâtres, les blancs venus du Portugal et puis ceux nés en Angola. À Luanda, ville érigée autour d'une forteresse bâtie en 1576 par les Portugais et qui symbolise l'oppression coloniale, la géographie de la ville traduit cette ségrégation. Aux blancs, le centre, aux indigènes, les quartiers périphériques, ces Mousseques, bidonville non asphaltée dont le nom signifie d'ailleurs « bâti avec du sable » en Kimbundu, la langue de l'une des principales ethnies du pays. Dans ces faubourgs où 99% de la population indigène est analphabète, émerge cette fin des années 1950 tout un mouvement animé par des poètes, des romanciers, des dramaturges, des peintres et des musiciens afin de ressusciter l'histoire et la culture oubliée de leur pays, ce qu'on appellera « l'angolanité ». Les concerts, les fêtes et les spectacles de quartier à Luanda, mais aussi à Benguela, plus au sud, sont l'occasion pour ces artistes militants de distribuer des tracts et de rallier à eux de nouveaux sympathisants. Ces quartiers ont beau être surveillés comme le lait sur le feu par le pouvoir colonial, sillonnés en permanence par des militaires et la police politique, ces artistes contestataires parviennent à y propager leurs idées. Liceo, qui a fondé N'Gula Rikmos, est par ailleurs, à l'époque, l'un des fondateurs de l'un des tout premiers mouvements politiques anticolonialistes du pays, le MPLA, Mouvement Populaire de Libération de l'Angola.
Yeah.
inspiré des rythmes rapides des danses de carnaval, ce Milloro par le groupe Os Quiesos. Milloro, un mot d'argot qu'on peut traduire par « il faudrait que ça aille mieux », comprenez, ça irait mieux si les colons partaient. Les colons, mais aussi les membres de la redoutable police qui opèrent des descentes sanglantes alors dans ces quartiers populaires de Luanda. Une chanson qui avait été écrite en 1961 dans un troquet de l'un de ces quartiers, Marsal. 1961, c'est l'année où tout bascule. En parallèle des activités menées par les artistes, des mouvements insurrectionnels se structurent. Leurs leaders sont de jeunes intellectuels révolutionnaires, pour la plupart des fils d'une vieille bourgeoisie nationaliste. Certains ont fait leurs études à Lisbonne, où ils ont noué des liens avec les nationalistes des autres colonies portugaises, Guinée, Cap-Vert ou Mozambique. Cette fin d'hiver 1961, ces mouvements décident de passer à l'action. Le 4 février, le MPLA donne le signal en lançant une attaque contre la prison de Sao Paulo, l'une des plus importantes de la capitale. Quelques semaines plus tard, le 15 mars, peu après 6 heures du matin, des révoltes éclatent dans le nord du pays, une zone de brousse peuplée de paysans. Quelques centaines de guérilleros, entraînés et encadrés, massacrent des centaines d'Européens. Ces guérilleros sont membres de l'Union des peuples de l'Angola et ils ont leur kimpoisa, leur cri de ralliement. Au cours de 3 jours, d'une révolte aussi sanglante qu'imprévisible, plus de 1800 blancs périssent. Cette révolte nationaliste, le pouvoir de Salazar préfère n'y voir que des actes de banditisme, révélateurs de la barbarie africaine. Le dictateur déclenche en retour une contre-offensive massive, faisant envoyer de Lisbonne 60 000 hommes, des armes lourdes et des tanks. Des milices blanches rasent des villages entiers et enlèvent des milliers de noirs. Parmi eux, le propriétaire d'une vaste plantation de café qui soutenait, certes, les rebelles, mais sans plus, un homme respecté dans les environs, père de 35 enfants et qui est sauvagement assassiné, sa tête brandie au bout d'une pique, tandis que ses terres lui sont confisquées. Des années plus tard, l'un de ses enfants, alors âgé de 13 ans, témoignera de sa détresse. Il s'appelle Teta Lando et dans cet assobio Meu, il raconte « Je siffle pour oublier mes peines, celles alors que je ne pouvais dire. » Sobio Meu, par le chanteur Teta Lando. Sur France Culture, métronomique, aujourd'hui, Angola, l'indépendance est une chanson triste.
Mungu oito die, lolo ya kwa mangoshi Ope makudishike, pobo ya sole kuzole Nakuje
Face aux révoltes qui éclatent dans le Nord à l'hiver 1961, Salazar décide alors de serrer la vis. En plus d'envoyer des militaires pour mater les guérilleros des maquis, il s'attaque également à la culture. Dans les Moussekès, ces quartiers populaires de Luanda, radio et télévision sont rares. Peu de journaux circulent. C'est donc surtout via la musique que circule l'information, subversive ou pas, à travers des chansons chantées en Kimbundu. Et puis il y a le carnaval qui, chaque année, depuis le 19e siècle, constitue la grande fête populaire, permettant à tous de relâcher un peu la pression. Domestiques, ouvriers ou employés se travestissent alors en dignitaires portugais et transposent en danse les travers de la colonisation. Ce carnaval, en 1961, les autorités portugaises décident soudain d'en interdire la tenue. Une interdiction qui perdurera pendant 7 ans. En parallèle, les artistes opposants sont pourchassés. Le directeur d'une radio récemment créée est arrêté. La répression touche également un jeune musicien qui vit dans la banlieue pauvre de Luanda et qui lui aussi est sensible aux idées indépendantistes. Il s'appelle José Barcelo de Carvalho, mais bientôt il abandonnera ce patronyme par trop colonial pour un nom plus africain, Bonga Kwenda. Menacé par le pouvoir, il est contraint en 1966 de fuir l'Angola. En exil, il deviendra lui aussi un leader du mouvement populaire de libération de l'Angola, tout en menant une carrière de sportif, devenant même recordman du 400 mètres, continuant surtout de sa voix grave et éraillée, ses harmonies délicates et ses belles mélodies tristes, d'interroger la cruauté du monde.
Cambadiam, Bundu Jossa Jupangejam, Tuatu Baneto Nimushima, Kenegimosh, Yenye Wakuvala, Yenye Yokidi, Kidi Aishieto, Anandeng Ondo Dimuka, Ondo Kwenda Kiambotegina, Kiambotongila, Gilaeto. Yenye ngibanza, yenye ngisota, ditale nupe, balu muken. Ingimono mutu kiambote gina, tuzuelo mbote, tushiko ngoma, tupanga muangola.
Oh, la 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 la. Watutambula te twashile ninzala okiki weza lesekya alokutubeta alokutujiba mwenye alokutubeta mujo alokutubeta mwenye alokutujiba.
Keno par le chanteur Bonga. Cette répression sans relâche par Salazar des aspirations indépendantistes angolaises commence toutefois, par sa brutalité inouïe, à faire douter jusqu'aux Portugais eux-mêmes. Déchirés entre loyauté envers leur pays et refus de cautionner une telle violence, ainsi qu'en témoigne le poète Luis Cilia dans cette archive de 1966.
Rola sangrento ma vola no chão de Angola. Rola sangrento ma vola no chão de Angola.
Rola sanglante une balle dans le sol de l'Angola. Dans une poussière d'incendie, des soldats jouent au football. Personne ne distingue dans la balle humide sur le sable qui se colle à l'herbe, qui tourne sur le sol, la tête d'un noir sanglante qui roule sur le sol de l'Angola.
Luis Cilia, vous êtes portugais, vous vivez à Paris et vous venez d'enregistrer deux disques dont, je crois, les titres font tout de suite comprendre quelle est votre situation puisqu'ils s'intitulent « Portugal-Angola, chant de lutte ».
Je suis portugais. Je suis né en Angola, où j'ai vécu pendant 15 ans. Et quand je suis parti du Portugal pour venir en France, j'ai eu un problème qui est le problème de beaucoup d'Angolais, ou bien beaucoup de Portugais nés en Angola. C'est qu'ils se sentent déchirés entre le Portugal et l'Angola. Beaucoup de se sentent Angolais, 100%. Et il y a d'autres qui ont vécu pendant quelques années comme moi au Portugal, et comprennent la réalité angolaise, comprennent que la situation en Angola ne peut déboucher que sur l'indépendance, et sentent en même temps le problème du Portugal. Alors finalement, après beaucoup d'hésitations, je me sens aujourd'hui beaucoup plus proche du problème portugais, je me sens portugais, mais de toute façon je ne voulais pas laisser de rendre un hommage au poète angolais, faire un peu de ce que quelqu'un qui est né en Angola peut faire pour l'indépendance.
Oui, vous avez, je crois, quitté le Portugal. Pourquoi ?
Bon, j'ai quitté le Portugal parce qu'à 21 ans, je devais faire mon service militaire et je serais envoyé ou bien en Angola ou bien au Mozambique où le gouvernement portugais mène une guerre contre les peuples africains qui veulent être indépendants. Et la seule solution que j'avais, c'était de partir du Portugal pour... montrer que je ne voulais pas faire ce service militaire.
Oh maman, je vais danser.
La Kwela, une musique de danse d'inspiration sud-africaine, chantée ici en français par le groupe Douro Negro, un groupe angolais qui, tandis que d'autres artistes plus politiques croupissent alors en prison, exportent eux une musique joyeuse jusqu'en Europe. Douro Negro, qui se produisent d'ailleurs en 1967 à Monte Carlo, bien encore à l'Olympia de Paris, où ils font le plein 20 soirs durant. Cette fin des années 1960, le régime salazariste déclinant en même temps que son dictateur vieillissant, relâche progressivement la pression culturelle pour se concentrer sur la lutte contre les mouvements indépendantistes et l'exploitation économique des richesses du pays. En 1968, se crée ainsi la radio Voz de Angola, la voix de l'Angola, qui permet une diffusion de productions angolaises et notamment de chansons chantées en Kimbundu. Il se monte par ailleurs une petite industrie discographique qui va jouer un rôle déterminant dans l'éclosion d'une nouvelle scène angolaise, qu'on songe au groupe d'Elias Diaz Kimwezo, Dos Quiesos ou encore de Jovens do Plenda. Le titre Palace par le groupe Jovens do Prenda. Au début des années 1970, le pays, enrichi par l'exploitation des matières premières et la découverte du pétrole, vit dans une prospérité sans précédent, qu'accompagne une explosion de la créativité. Les bals populaires, les fêtes, les spectacles se multiplient. On danse sur les disques de musique brésilienne et caribéenne que passent les disques jockeys, lesquels intègrent également les tout premiers 45 tours angolais. Des disques que l'on doit notamment à un producteur, Valentine de Carvalho, qui installe à Luanda un premier studio d'enregistrement. Puis en 1974, un autre producteur crée la Compagnia de Discos de Angolas, qui produira notamment ce très beau Mama Divoa Diamo, interprété en 1975 par le chanteur Ravoginho, maçon de son état dans le quartier de Marsal, racontant l'amour d'une jeune femme pour laquelle un homme avait un jour échoué en prison. Chanteur Ravoginho pour cette Mama Divoa Diamo de 1975. Finalement, la délivrance de l'Angola viendra du Portugal lui-même, où parmi de plus en plus de militaires se répand l'idée que la guerre est à l'origine de tous les problèmes et que seul un changement politique permettra d'y mettre fin. Largement soutenu par le peuple, ce mouvement débouche sur une révolution baptisée Révolution des œillets le 25 avril 1974. Ce jour-là, la diffusion par la radio d'une chanson interdite par le régime lance le signal d'un coup d'État qui, en quelques heures, voit le pouvoir du vieux Salazar s'effondrer. En Angola, cette révolution libère les énergies. Un cessez-le-feu est signé quelques mois plus tard par les différents mouvements de libération, lesquels établissent une constitution provisoire. Pour autant, les tensions entre ces groupes rivaux restent fortes, même si là encore, la musique cherche à adoucir les choses. Ainsi, en septembre 1975, le chanteur Teta Lando, qu'on entendait déjà tout à l'heure, enregistre un disque intitulé Independencia, sur lequel figure ce FNLA-MPLA, du nom des deux principaux mouvements insurrectionnels, les exhortant tous deux à plus de paix et d'unité. Le chanteur Teta Lando pour ce FNLA, MPLA, cri d'alerte hélas prémonitoire tant les tensions entre groupes insurrectionnels paraissent alors insurmontables. Archives France Inter, 11 septembre 1975.
Après plus de 4 siècles de colonisation portugaise, l'Angola accédera à l'indépendance le 11 novembre prochain. Contrairement à ce que l'on pouvait espérer, après le 25 avril 1974, la décolonisation ne se passe pas dans le calme. Iliades, vous revenez de Luanda et vous n'êtes pas optimiste quant à l'avenir.
Aujourd'hui, la population blanche a peur des combats que se livrent MPLA et FNLA. Bataille d'autant plus rude qu'il ne faut pas oublier que l'on est en Afrique et que le tribalisme est toujours vivant. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a de vieux comptes à régler. Nombreux sont les Noirs qui étaient enrôlés dans l'armée portugaise chargée de maintenir l'ordre en Angola. Alors, que fait l'armée portugaise pour faire respecter l'ordre? Rien. Dans ces conditions, on comprend que les Portugais veuillent quitter le pays, d'autant qu'au cours des batailles du mois de mai et du mois de juillet, il y a eu des morts dans la population européenne. Alors, ils sont 300 000 à faire la queue pour monter dans un avion. Ils ont tout abandonné, tous leurs souvenirs. Ils n'ont droit qu'à 30 kilos de bagages et 1 mètre cube par bateau. Il est difficile de se représenter le désespoir de ces gens qui, pour la plupart, n'étaient pas riches. Ils emportent avec eux 3 casseroles, une chaise de cuisine, un matelas. Dans l'avion, c'est le silence. Chacun essaie de cacher ses sentiments. Tous promettent qu'ils reviendront dans le calme, quand le calme sera rétabli. Mais tous sont conscients que ce n'est là qu'un rêve. L'exemple du Congo voisin n'est pas si éloigné. Et puis, la plupart d'entre eux n'ont jamais vu la mère patrie. Il faut voir les visages de ces gens à l'arrivée à Lisbonne. L'avion s'arrête, personne ne bouge malgré les 10 heures de vol. Ils ont peur de leur nouvelle vie. «
11 novembre 1975, l'indépendance de l'Angola est finalement proclamée à la fois par le MPLA et son rival, le FNLA. Mais l'indépendance ne règle pas tout, car si les Portugais se retirent du jeu, à qui confier le pouvoir ? De cette situation explosive, personne ne sort vraiment indemne. Ainsi, Liceao, le leader des Angola Ritmos qu'on voyait au début de cette histoire revenir d'exil, est-il écarté par ses anciens compagnons d'armes ? Musicalement, il ne réussira jamais à retrouver le succès. Lui qui avait fait partie du groupe le plus célèbre des années 50, une fois la page de l'indépendance tournée, sera condamné à un exil intérieur et tombera peu à peu dans l'oubli. Politiquement, les années suivantes seront marquées par une forte instabilité. En 1976, la Nouvelle République est certes reconnue par la plupart des pays étrangers, mais dès l'année suivante, une tentative de coup d'État plongera le pays dans la psychose. Et tandis qu'une guerre civile qui allait durer plusieurs décennies s'amorçait sur fond d'opposition de guerre froide, il faudrait des années pour que la scène musicale angolaise, via notamment des échanges avec le Brésil, retrouve enfin un peu de légèreté.
Aquele nome inesquecível dos filhos da Angola, Valódia, Valódia, Valódia tombou em defesa do povo angolano, Valódia. Valódia, Valódia tombou na mão dos imperialistas que pretendem impor-nos o neocolonialismo. Povo angolano, todos bem vigilantes, que no neocolonialismo a repressão é pior. A miséria é um martírio, a pobreza também, e o neocolonialismo não tem cor. Valódia, Valódia, Valódia tombou em defesa do povo angolano. Valódia, o filho bem amado do povo angolano. Valódia deu a sua vida por uma causa justa. Valódia morreu, mas o seu nome ficou cá com o povo. Valódia, Valódia, Valódia tombou em defesa do povo angolano. Abaixo capitalismo, abaixo.
C'est sur ce Valódia, interprété en 1975 par le chanteur Santokas, que se referme ce numéro de Métronomique. Aujourd'hui, 1969-1975, Angola, l'indépendance est une chanson triste. Rendez-vous sur franceculture.fr pour écouter ou télécharger cette émission. Merci à Romain Couturier de la discothèque de Radio France, à Cyril Baer pour sa collaboration, à Vivienne Lefebvre pour les Archivina, ainsi qu'à Anne Kobilac pour sa réalisation. Aujourd'hui aux manettes, c'était Stéphane Desmonts, au micro Amaury Chardot. À vendredi prochain, 14h pour un nouveau Métronomique sous forme de fiction médiévale et décalée.